1979-2014. Maurice Randolph Bellamy fut condamné à la prison à vie le 11 janvier 1979, et pendant une courte période, les choses s'accélérèrent avant de ralentir, ralentir, ralentir. Les formalités de sa mise sous écrou à la prison d'État de Waynesville furent achevées à 18 heures le jour même de sa condamnation. Son compagnon de cellule, un condamné pour meurtre du nom de Roy Algood, le viola pour la première fois 45 minutes après l'extinction des feux.
« Bouge pas et chie pas sur ma bite, jeune homme », murmura-t-il à l'oreille de Maurice. « Sinon je te coupe le nez. T'auras l'air d'un porc que ça fait bouffer par un alligrator. »
Maurice, qui s'était déjà fait violer, ne bougea pas et se mordit l'avant-bras pour ne pas crier. Il pensa à Jimmy Gold. À Jimmy avant qu'il ne parte à la conquête du billet d'or, quand il était encore un authentique héros. Il pensa à Harold Feynman, le copain de lycée de Jimmy. Maurice avait jamais eu de copain de lycée. Disant que toutes les bonnes choses ont une fin, ce qui impliquait que le corollaire était également vrai. Toutes les mauvaises choses ont aussi une fin. Cette mauvaise chose-là dura particulièrement longtemps, et le temps qu'elle dura, Maurice se répéta en boucle le mantra de Jimmy dans Le Coureur « Cette connerie, c'est des conneries ». Ça l'aida. Un peu. Les semaines qui suivirent, Allgood le viola par en bas certains soirs, par en haut d'autres soirs. Dans l'ensemble, il préférait la prendre dans le cul, où il n'y avait pas de papilles gustatives. L'un dans l'autre, il trouvait que Cora Ann Hooper, la femme qu'il avait si bêtement agressée pendant l'un de ses trous noirs, obtenait de la sorte ce qu'elle aurait probablement considéré comme une parfaite réparation. D'un autre côté, elle-même n'avait eu à subir qu'une seule intrusion d'un envahisseur indésirable. Il y avait une usine de textile attenante à Waynesville. On y fabriquait des jeans et le genre de chemise que portent les ouvriers. Son cinquième jour à la teinturerie, l'un des copains de Allgood attrapa Maurice par le poignet, l'emmena derrière la cuve bleue numéro 3 et lui demanda de défaire sa ceinture.
« Tu bouges pas et tu me laisses faire, » dit-il.
Et quand il eut terminé son affaire,
« Je suis pas pédé ni rien, ok? Mais faut bien que je fasse avec, comme tout le monde. Tu répètes à quelqu'un que je suis pédé et je te fais ta peau, connard. »«
Je dirai rien, » répondit Maurice. « Cette connerie, c'est des conneries, » se dit-il. Cette connerie, c'est des conneries. Un jour, vers la mi-mars 1979, un Hells Angel, avec des blocs de muscles tatoués, s'amena vers Maurice dans la cour de sport.
« Tu sais écrire ?»
lui demanda le type avec un fort accent du sud profond, reconnaissable entre mille.
« Tu sais écrire ? On m'a dit que tu sais écrire. »«
Oui, je sais écrire, » répondit Maurice. Il vit Allgood s'amener. Prendre note de qui marchait à côté de Maurice et changer de cap, direction le terrain de basket à l'autre extrémité de la cour.
« Moi, c'est Warren Duckworth. On m'appelle surtout Duck. »«
Je suis Maurice Bell. »«
Je sais qui tu es. T'écris plutôt bien, non ?»«
Oui. » Maurice répondit sans hésitation ni fausse modestie. La façon dont Roy Allgood s'était soudain trouvé à un autre endroit où traîner ne lui avait pas échappé.
« Tu pourrais écrire une lettre à ma femme ?» Si je te dis plus ou moins quoi écrire, mais en faisant des plus belles phrases, tu vois le genre?
Je peux faire ça, et je le ferai, mais j'ai un petit problème.
Je sais c'est quoi ton problème, lui dit sa nouvelle connaissance. T'écris à ma femme une lettre qui la rendra heureuse, peut-être arrêter de causer divorce, et t'auras plus de problème avec cette petite pute dans ta piole.
C'est moi la petite pute dans ma piole, pensa Maurice. Mais il ressentit une infime lueur d'espoir. « Monsieur, je vais écrire à votre femme la plus belle lettre qu'elle ait jamais reçue de sa vie. » En regardant les énormes bras de Duckworth, il se rappela un truc qu'il avait vu dans un documentaire animalier. Il y avait une espèce d'oiseau qui vivait dans la gueule des crocodiles, assurant jour après jour sa survie en picorant les petits restes de nourriture entre leurs crocs. Maurice se disait que l'oiseau en question avait probablement fait une très bonne affaire.
J'aurai besoin de papier.
Se rappelant la maison de redressement où 5 feuillets de Blue Horse pourri étaient tout ce à quoi t'avais droit, des feuillets où flottaient de gros grumeaux de pâte à papier ressemblant à des grains de beauté précancéreux.
Je te trouverai du papier, autant que t'en veux. Écris juste cette lettre. Et à la fin, tu dis que tous les mots sont sortis de ma bouche, que toi t'as juste écrit.
Ok. Dites-moi ce qui lui ferait le plus plaisir à entendre.
Doc réfléchit, puis son visage s'illumina.
Qu'elle est bonne aux pieux ?
Ça, elle doit déjà le savoir.
C'était au tour de Maurice de réfléchir. Quelle partie de son corps elle aimerait changer si elle pouvait ?
Doc fronça les sourcils. « Je sais pas. Elle dit toujours que son cul est trop gros. Mais tu peux pas écrire ça. Ça ferait qu'aggraver les choses au lieu de les arranger. »
« Non. Ce que je vais écrire, c'est à quel point vous aimez poser vos mains dessus et le tripoter. »
Doc souriait à présent.
« T'as intérêt à faire gaffe ou c'est moi qui vais te violer. »
« C'est quoi sa robe préférée ? Elle en a une ?»«
Ouais, une verte. Elle est en soie. » C'est sa mère, elle lui a offert l'an dernier avant que je me fasse serrer. Elle la met quand on sort danser.
Il baissa les yeux vers le sol.
Elle a pas intérêt à être en train de danser, là. Mais ça se pourrait, je le sais. Peut-être que je sais pas écrire autre chose que mon putain de nom, mais je suis pas con.
Je pourrais écrire à quel point vous aimez lui tripoter les fesses quand elle porte cette robe. Qu'est-ce que vous en dites ? Que rien que d'y penser, ça vous excite ?
Doc le dévisagea, avec une expression totalement étrangère au quotidien de Maurice dans la prison de Waynesville. Une expression de respect.
Hey, « Eh, c'est pas mal, ça !»
Maurice cogitait toujours. Le sexe n'était pas le seul truc que les femmes avaient en tête quand elles pensaient au mec. Le sexe, c'est pas l'amour.
« Elle a les cheveux de quelle couleur ?»«
Ben, en ce moment, je sais pas. Brun, je dirais. » Mais ça, c'est quand elle se l'éteint pas.
Brun, ça sonnait pas bien, du moins aux oreilles de Maurice. Mais il y avait plein de façons d'esquiver ce genre de mots. Il lui vint à l'esprit que tout ça s'apparentait pas mal à vendre un produit dans une agence de pub. Mais il repoussa bien vite l'idée. La survie, c'est la survie. Il poursuivit. J'écrirai à quel point vous aimez voir le soleil briller dans ses cheveux, surtout le matin.
Doc ne répondit rien. Il fixait Maurice, ses sourcils broussailleux rejoints par un froncement au milieu.
« Quoi, c'est pas bon ?»
Doc lui saisit le bras, et pendant un terrible instant, Maurice fut persuadé qu'il allait le briser comme une branche morte. « Haine » était tatouée sur ses phalanges de gros costaud. Doc souffla.
« C'est comme de la poésie, ça. T'auras ton papier demain. Il y en a plein à la bibliothèque. »
Ce soir-là, quand Maurice retourna au bloc à 21h après avoir passé 6 heures à teindre des fringues en bleu, sa piole était vide. Rolf Vanziano, de la cellule voisine, informa Maurice que Roy Holgood avait été emmené à l'infirmerie. Quand Holgood revint le lendemain, il avait deux énormes cocards et une attelle au nez. Il regarda Maurice depuis sa couchette, puis se retourna pour faire face au mur. Warren Duckworth fut son premier client. Au cours des 36 années suivantes, ils furent nombreux. Parfois, quand il n'arrivait pas à dormir, allongé sur le dos dans sa cellule, au début des années 90, il en avait une individuelle, avec étagère approvisionnée en livres, aux pages usées à force d'avoir été tournées. Maurice essayait de se détendre en repensant à sa découverte de Jimmy Gold. Un rayon de soleil lumineux dans la grisaille de chaos et de colère de son adolescence. À l'époque, ses parents se disputaient sans arrêt. Et même s'il en était venu à les détester cordialement tous les deux, sa mère était la mieux armée contre le monde. Alors il avait adopté son sourire en coin sarcastique et l'attitude supérieure et cassante qui allait avec. Excepté en littérature, où il avait des A, quand il voulait, il collectionnait les C, ce qui propulsait Anita Bellamy, brandissant ses relevés de notes, dans des paroxysmes de fureur. Il avait aucun ami, mais plein d'ennemis. À 3 reprises, il s'était fait tabasser. 2 fois par des garçons qui aimaient tout simplement pas son attitude en général, mais le 3e avait une raison plus précise. C'était une armoire à glace. Un joueur de football de terminale, du nom de Pete Womack, qui un jour à la cafette, n'avait pas apprécié la façon dont Maurice avait reluqué sa copine.
« Qu'est-ce que tu regardes, tête de cul ?»
s'enquit Womack alors que le silence se faisait autour de Maurice, assis tout seul à sa table.
« Elle !»
répondit Maurice.
Il avait peur. Et d'ordinaire, quand il était lucide, la peur lui imposait un minimum de retenue. Mais il n'avait jamais pu résister à l'attrait du public.
« Bah t'arrête ça !»
fit Womack assez pitoyablement, lui laissant sa chance. Peut-être Pete Womack était-il conscient de faire 1,90 m et 100 kilos, alors que la petite merde de seconde aux lèvres rouges assis tout seul faisait 1,70 m et 60 kilos tout mouillé. Peut-être avait-il également conscience que ceux qui regardaient, dont sa copine clairement embarrassée, prendraient note de cette inégalité.
« Si elle veut pas qu'on la regarde, dit Maurice, pourquoi elle s'habille comme ça ?»
Ce que Maurice considérait comme un compliment. Du genre maladroit, il est vrai.
Mais Womack, lui, n'était pas de cet avis. Il bondit sur lui, point levé. Maurice balança un seul coup, mais bien envoyé, et qui valut un cocard à Womack. Après ça, il reçut bien sûr sa raclée, presque légitime d'ailleurs, mais ce coup de poing fut une révélation. Il se battrait s'il le fallait. C'était bon à savoir.
Les deux garçons furent suspendus. Et le soir même, Maurice eut droit à un sermon de 20 minutes de la part de sa mère sur la résistance passive, ponctué par la remarque acerbe comme quoi se battre à la cafétéria n'était pas franchement le genre d'activité périscolaire que les meilleures universités recherchaient sur le curriculum de leurs futurs étudiants. Derrière elle, le père de Maurice leva son verre de martini et lui décocha un clin d'œil. Cela sous-entendait que même si Georges Bellamy vivait principalement sous la coupe de sa femme, lui aussi était prêt à se battre dans certaines circonstances. Mais la fuite restait le mécanisme de défense préféré de ce cher papa. Et au cours du deuxième semestre de seconde de Maurice à Northfield, Georgie Lachif largua carrément sa femme, marquant seulement une pause pour vider ce qui restait sur le compte en banque des Bellamy. Les investissements dont il s'était vanté soit n'existait pas, soit avait capoté. Anita Bellamy se retrouva seule, avec un stock de factures et un fils de 14 ans, rebelle, sur les bras. Deux biens seulement lui restèrent après le départ de son mari pour des contrées inconnues. Sa nomination pour le prix Pulitzer encadré, pour ce bouquin qu'elle avait écrit, et la maison dans laquelle Maurice avait grandi, située dans le secteur le plus agréable du Northside et libre d'hypothèque. Anita Bellamy avait obstinément refusé de cosigner les papiers que son mari avait rapportés de la banque, insensible pour une fois à ses élucubrations concernant une opportunité d'investissement à ne surtout pas manquer. Elle la vendit après son départ, et ils déménagèrent dans Sycamore Street. «
Une régression », confessa-t-elle à Maurice l'été d'avant son entrée en première. « Mais notre réserve financière va se renflouer. Et puis au moins, le voisinage est blanc. »
Elle s'interrompit, se repassant cette dernière remarque, puis ajouta « Pas que je sois raciste. »
« Non, man, » répondit Maurice. « Qui irait croire ça ?»
D'ordinaire, elle détestait qu'on l'appelle « man » et le disait. Mais ce jour-là, elle tint sa langue. Ce fut donc un bon jour. C'était toujours un bon jour quand il pouvait lui balancer une pique. L'occasion se présentait si peu souvent. Au début des années 70, au lycée de Northfield, les comptes rendus de lecture étaient encore un exercice obligatoire en classe de première. On remettait aux élèves une liste ronéotypée de bouquins approuvés par le conseil d'administration, parmi lesquels ils devaient faire leur choix. Aux yeux de Maurice, la plupart avaient l'air à chier. Et, comme d'habitude, il ne se gêna pas pour le dire.
« Hé, regardez !» cria-t-il depuis sa place au dernier rang. 40 parfums de bouillie américaine !»
Certains de ses camarades rigolèrent. Il pouvait les faire rire. Et même s'il ne pouvait pas se faire aimer d'eux, ça lui allait. C'étaient des minables voués à des mariages minables et des boulots minables. Ils élèveraient des gosses minables et feraient sauter sur leurs genoux des petits-enfants minables avant d'arriver à leur propre fin minable dans des hôpitaux et des maisons de retraite minables propulsés vers les ténèbres en étant persuadés d'avoir vécu le rêve américain et que Jésus les attendrait aux portes du paradis avec le guide du nouvel arrivant.
Maurice était destiné à un meilleur avenir. C'était juste qu'il ne savait pas encore lequel.
Mademoiselle Todd, qui avait alors l'âge approximatif qu'aurait Maurice quand lui et ses complices s'introduiraient dans la maison de Rothstein, lui demanda de rester après son cours. Alors que les autres sortaient de classe, Maurice se prélassa sur sa chaise, jambes écartées de part et d'autre de son pupitre, s'attendant à ce que Todd lui rédige un billet de retenue. Ce ne serait pas le premier qu'il récolterait pour l'avoir ouvert en classe. Mais ce serait son premier en cours d'anglais. Et il s'en mordait un peu les doigts. Une vague pensée lui traversa l'esprit avec la voix de son père.
« Tu files un mauvais coton, Maury !»
et disparut comme une fine volute de vapeur. Au lieu de lui donner une colle, Mademoiselle Todd, pas exactement belle de visage, mais avec un sacré putain de corps, plongea la main dans son sac de bouquins rebondi et en sortit un livre de poche avec une couverture rouge. Un garçon, appuyé contre un mur de briques et fumant une cigarette, y était esquissé en jaune. Au-dessus figurait le titre « Le coureur ».
« Tu auras jamais une occasion de faire ton petit malin, n'est-ce pas ?»
lui demanda Mademoiselle Todd. Elle s'était assise sur le pupitre voisin du sien. Sa jupe était courte, ses cuisses longues, ses collants scintillants. Maurice ne dit rien.
« Dans ce cas précis, je le voyais venir. C'est pourquoi j'ai apporté ce bouquin. C'est une mauvaise bonne nouvelle, mon petit monsieur, je sais tout. Tu ne seras pas collé, mais je ne te laisse pas le choix non plus. Tu liras ce bouquin, et ce bouquin seulement. Il n'est pas sur la liste du conseil d'administration, et je suppose que ça pourrait m'attirer des ennuis, mais je compte sur ton bon fond, car j'aime à croire que tu en as un, aussi infime soit-il. »
Maurice jeta un coup d'œil au livre, puis, sans se fatiguer à dissimuler son intérêt, regarda les jambes de Mademoiselle Todd. Elle vit la direction de son regard et sourit. L'espace d'un instant, Maurice entreaperçut un avenir tout tracé pour eux, dont une grande partie passait au lit. Il avait déjà entendu parler de cas similaires. Professeur sexy cherche jeune garçon pour cours particulier d'éducation sexuelle. Sa petite bulle de fantasme eut une durée de vie d'environ 2 secondes. Mademoiselle Todd la fit éclater tout en gardant son sourire.
Jimmy Gold et toi allez bien vous entendre. C'est une petite merde sarcastique plein de mépris pour lui-même. Vous vous ressemblez beaucoup.
Elle se leva. Sa jupe retomba 5 centimètres au-dessus des genoux.
Bonne chance pour ton compte-rendu. Et la prochaine fois que tu lorgneras sous les jupes d'une femme, souviens-toi de ce qu'a dit Mark Twain. N'importe quel clampin hirsute est capable de regarder.
Maurice s'éclipsa de la salle de classe, le visage en feu. Cette fois, on ne l'avait pas seulement recadré, on lui avait mis le nez dedans et bien enfoncé. L'envie le démangeait de balancer le livre dans une bouche d'égout, aussitôt descendu de bus au croisement de Sycamore et Elm, mais il se retint. Pas parce qu'il avait peur de se faire coller ou virer. Comment pouvait-elle lui faire quoi que ce soit alors que le livre qu'elle lui avait imposé n'était pas sur la liste agréée? Il se retint à cause du garçon sur la couverture. Un garçon, regardant à travers un nuage de fumée de cigarette, avec une espèce d'insolence blasée.
C'est une petite merde sarcastique plein de mépris pour lui-même. Vous vous ressemblez beaucoup.